Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine, dans Escale, nous nous penchons sur le mandat de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui tend à assurer la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la planète. Les changements climatiques et la croissance démographique prévue d'ici 2050 font de ce mandat un défi majeur. Pour le relever, la FAO multiplie ses collaborations. Nous revenons sur deux initiatives récentes et bien différentes qu'a menées la FAO afin de s'acquitter de son mandat. Bonne écoute. Atteindre la sécurité alimentaire pour tous, cela veut dire veiller à ce que les êtres humains aient un accès régulier à une nourriture de bonne qualité qui leur permette d'avoir une vie saine et active. Or, à l'horizon de 2050, la population mondiale atteindra le seuil fatidique de 9 milliards de personnes, dans un contexte de changement climatique important, autant de défis colossaux à relever. Sustainable Diets and Biodiversity, le récent rapport conjoint de la FAO et de l'ONG Bioversity International établit clairement que les systèmes et régimes alimentaires actuels sont fortement déséquilibrés et ne sont pas viables à long terme. Aujourd'hui, plus de 900 millions de personnes souffrent de la faim. 2 millions de carences en micronutriments, notamment en vitamine A, fer ou iode, alors qu'1,5 milliard sont en situation de surpoids ou d'obésité. Selon cette étude, malgré les nombreux succès remportés par l'agriculture au cours des 3 dernières décennies, il faut revoir nos modes de production, promouvoir une alimentation soutenable et renforcer la biodiversité alimentaire. Les explications de Florence Egal, du service de la nutrition et de la protection du consommateur à la FAO.
Quand on parle d'alimentation durable, d'abord c'est un concept qui est en train de mûrir, dirons-nous, depuis plusieurs années un peu partout. Donc il ne s'agit pas uniquement de ce que pense la FAO ou Bioversity, mais je pense qu'il s'agit d'un constat qui est que si on cherche à avoir un modèle de consommation qui soit un peu un exemple, ce qui se passe dans les pays développés n'est pas exactement l'idéal. On a des problèmes de plus en plus sérieux du côté de l'obésité. Et donc, on est en train d'essayer de voir, OK, il faut nourrir la population. Il faut nourrir la population comment ? Il faut donc que cette alimentation soit saine, équilibrée. Mais il faut aussi que cette alimentation soit compatible avec les défis environnementaux que connaît la planète maintenant. Et il faut également qu'on regarde les problèmes d'équité sociale. Il faut dire que ces derniers temps, le modèle économique qui, en fait, est sous-jacent à toute la production agricole, part du principe qu'il faut produire de façon à alimenter les marchés et de façon à ce que les gens gagnent leur vie le long de cette chaîne alimentaire. Ça regarde assez peu la combinaison des aliments, parce que souvent on regarde, est-ce qu'on va penser, au maïs, ou est-ce qu'on va penser à la viande, etc. On va regarder quelque chose au lieu de regarder un peu un régime alimentaire. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis l'autre problème, c'est que si on veut produire et distribuer en grande quantité, il va falloir standardiser. Donc on va avoir tendance à limiter le nombre d'espèces, à encourager les gens souvent à modifier ce qu'ils faisaient traditionnellement pour adopter ces nouvelles espèces. Et ça veut dire qu'on se retrouve très souvent à générer des déséquilibres au niveau local et effectivement une érosion de la biodiversité. Il y a énormément de variétés, par exemple, de riz, mais on va utiliser une variété de façon à avoir un produit standard qui va aboutir sur les étagères des supermarchés sous toujours la même forme. Et ça veut dire qu'on va perdre une grande richesse dans la nature de différentes variétés, mais également des gens qui produisaient certaines variétés tout à fait intéressantes, mais peut-être pas sur une grande échelle, vont perdre leur boulot parce que de toute façon, ils ne seront pas ancrés dans le système de production.
Alors, vous avez souligné deux points. D'une part, la variété des éléments. D'autre part, les systèmes de production. Alors, est-ce que vous proposez dans ce rapport des systèmes de production différents vers lesquels aller ?
Je pense que pour l'instant, on en est un peu, je dirais pas au début d'une réflexion, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'intervenants qui travaillent sur ces réflexions un peu différentes, donc peut-être prendre une distance ou voir au-delà des approches filières qui ont effectivement permis de faire de grands progrès, mais qui toutes seules ne sont pas suffisantes. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il faut commencer à avoir des systèmes alimentaires locaux qui soit durable, qui soit en ligne avec la gestion de l'environnement localement, qui soit en ligne avec la culture des gens le plus possible. Non pas pour dire que c'était parfait avant. L'alimentation, finalement, reflète beaucoup une approche de développement. Et si le développement doit être durable, il faut regarder les aspects économiques, certes, mais il faut aussi regarder les aspects sociaux et il faut regarder les aspects d'environnement. Et pour l'instant, je crois qu'on n'a pas vraiment beaucoup de succès en matière de lutte contre la pauvreté ni de gestion durable de l'environnement. Dans une période où il va y avoir des coûts d'énergie, de transport qui sont en train de monter, est-ce que c'est justifié d'avoir des chaînes alimentaires qui font des milliers de kilomètres et qui font que quand quelqu'un éternue dans le sud-est asiatique, eh ben les paysans dans le Sahel vont commencer à avoir des problèmes d'alimentation. Il semble qu'il y ait besoin de rationaliser un petit peu, revoir les systèmes alimentaire de façon à ce qu'il y ait un peu plus de bon sens, dirons-nous, dans ces systèmes.
On voit dans la même veine un retour dans les grandes villes, aux États-Unis ou en Angleterre par exemple, le retour des marchés locaux où les fermiers des environs viennent dans les villes pour vendre leurs produits. C'est un peu plus ce genre de modèle que vous prenez ?
Je pense qu'il faut effectivement commencer à réfléchir aux liens ville-campagne. Il faut aussi voir que le rôle des consommateurs urbains, ce sont eux qui, d'un certain côté, ont toujours justifié la production agricole puisqu'il fallait produire pour nourrir les populations urbaines. Et je pense que par là même, travailler à partir d'initiatives urbaines pour renforcer une agriculture de proximité, notamment pour des produits périssables, c'est probablement un des éléments de réponse. Je pense qu'il y a des initiatives, que ce soit au Japon, que ce soit en France, etc. Il y a de plus en plus aussi, non seulement d'achats institutionnels comme à New York où on achète pour les cantines scolaires localement, et je crois qu'il y a même un décret en ce sens de la municipalité, mais également des associations directes entre producteurs et consommateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se faire. Il ne s'agit évidemment pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, en dire on arrête tout, on recommence complètement différemment, non. Mais il s'agit, je pense, de diversifier la réflexion et de voir qu'il y a différents modèles qui peuvent être combinés pour aller vers un système alimentaire qui est plus durable.
Alors, le rapport souligne que 900 millions de personnes souffrent de faim, alors qu'1,5 milliard souffrent de surpoids ou d'obésité. Comment expliquez-vous ce contraste ?
C'est à la limite, je dirais même pas un contraste, dans la mesure où très souvent on retrouve dans les mêmes familles les enfants qui sont en sous-nutrition et les adultes qui sont obèses. Ça n'est pas si contradictoire que ça. Si vous regardez les gens, notamment dans les restos du cœur en France et autres, ces gens-là ont des problèmes d'obésité. Mais ils ont des carences en micronutriments. C'est-à-dire qu'ils ont souvent une alimentation qui est basée sur des aliments tout prêts, qui sont souvent riches en glucides, qui sont riches en graisses, qui sont très salé, où il y a du sucre, et effectivement, ça remplit bien l'estomac aussi. Par contre, on sait tous les étudiants savent que si on veut se mettre au régime et manger des fruits et des légumes pour pouvoir mincir, eh ben, on n'a pas nécessairement les moyens. Donc je pense qu'il y a un problème, il y a beaucoup d'aliments qui sont encore subventionnés, le sucre est encore subventionné dans beaucoup de pays, par contre, les produits frais ne sont pas subventionnés. Donc on a des modèles de consommation. C'est vrai qu'en tant que consommateur, vous allez acheter ce qu'il y a de moins cher et ce qu'il y a de moins compliqué à préparer. Et souvent, ce que vous trouvez qui est moins cher et moins compliqué à préparer, c'est une alimentation déséquilibrée.
Face à ces perspectives plutôt sombres, la FAO cherche à former des alliances pour trouver des solutions innovantes et plus efficaces au niveau de la production alimentaire. À l'instar de celle qu'a forgée récemment le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, entre son organisation et le monde académique, l'invitant à s'impliquer dans la recherche sur la pauvreté rurale et les entreprises agroalimentaires. L'explication de Marcela Villarreal, directrice du bureau des partenariats de la FAO.
À la FAO, on est une organisation qui s'appuie sur les connaissances. Et bien sûr, pour la lutte contre la faim, on a besoin des connaissances à jour parce que le problème de la faim, c'est un problème vraiment complexe où on connaît beaucoup de choses, mais il y a bien d'autres qu'on ne connaît pas encore bien.
Alors, ce partenariat serait pour l'approfondissement et la mise à jour des connaissances. Et M. Graziano da Silva a surtout demandé à ce qu'il soit axé sur la lutte contre la pauvreté rurale et l'appui aux petits agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
D'ici 2050, on aura besoin d'augmenter la production agricole de au moins 60%. Alors aujourd'hui, la production globale dépend dans une grande mesure dans les pays pauvres des petits producteurs. Les petits producteurs ont besoin des connaissances techniques, ont besoin d'accès au crédit, d'accès aux ressources nécessaires pour la production agricole, pas seulement les intrants, mais aussi bien sûr sur la technologie et les produits de la connaissance. Alors, si les pays n'utilisent pas ce type d'approche pour le petit producteur, clairement, on ne pourra jamais arriver à une situation où on peut nourrir la planète d'ici 2050. Alors, la pauvreté rurale, ça passe aussi par le petit producteur. Le petit producteur, normalement, n'a pas les moyens de s'en sortir de la pauvreté à cause justement des problèmes de la petite production agricole, notamment dans un temps d'augmentation des prix et des aliments et de difficultés d'accéder aux intrants et les ressources productives nécessaires pour la production. Ça, c'est le cas notamment pour les femmes petites productrices où elles se voient dans beaucoup plus de problèmes pour l'accès à ces moyens de production que les petits producteurs hommes.
C'est vraiment, en fait, prôner l'appui aux petits agriculteurs pour s'en sortir de ces problèmes de sécurité alimentaire plutôt que de prôner le développement des entreprises agroalimentaires à grande échelle.
Pas du tout. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. On ne peut pas l'un sans l'autre. Ce qu'on voudrait pour les petits producteurs, c'est justement voir comment ils peuvent, par exemple, s'associer. Parce que pour accéder les marchés, ils ne peuvent pas le faire s'ils sont seuls. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle pour les grandes exploitations. C'est nécessaire du point de vue aussi de fournir la nourriture aussi pour la planète.
Alors concrètement, qu'est-ce que le monde académique peut apporter ? Quelle peut être sa contribution ?
Le monde académique a besoin de nous fournir, par exemple, les technologies pour améliorer les conditions de production, notamment pour les femmes. Les femmes ont une extrême pauvreté aussi de temps à disposition, beaucoup plus que les hommes producteurs. Et il y a des technologies qui pourraient améliorer la condition des femmes énormément, mais qu'on n'a pas assez développées. Il y a aussi, par exemple, les connaissances au niveau de ressources génétiques, au niveau de variétés de cultures qui pourraient augmenter la production en, justement, conservant l'environnement. Et ce type de connaissances, c'est absolument nécessaire pour augmenter la production et aider le petit producteur à sortir de la pauvreté.
Est-ce que ce rapport entre la FAO et le monde académique va être plus formalisé ?
Bien sûr. C'est une des priorités du nouveau directeur général de formaliser les rapports entre la FAO et le monde académique, justement pour faciliter la production des connaissances nécessaires pour l'élimination de la faim, mais aussi pour faciliter l'accès des gens qui ont plus besoin de ces connaissances. Alors, ce n'est pas la seule priorité du directeur général. Il y a d'autres. On va ouvrir un bureau qui nous permettra de faire cette liaison avec le monde académique, mais en même temps, on va ouvrir un bureau pour la liaison avec les organisations de producteurs et les coopératives, un autre bureau pour la liaison avec la société civile et aussi le secteur privé. C'est une partie de la stratégie du nouveau directeur général pour faire de la FAO une organisation beaucoup plus ouverte et ouverte pas seulement à toutes les parties prenantes, mais aussi au changement du monde et aux besoins des gens pour lesquels on travaille, notamment les gens qui souffrent de la faim.
Reste à espérer que les efforts du monde académique et les divers partenariats de la FAO porteront leurs fruits afin de permettre à tous de se nourrir sainement tout en préservant la planète. Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.